posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
De vos animaux sur RMC en ce dimanche 4 janvier. Encore une fois, nous renouvelons tous nos vœux de bonheur pour cette année 2015. Laetitia, souhaitons à tous nos auditeurs plein de bonnes choses.
Bonne année 2015, tous mes vœux pour vous, pour vos animaux. Et je vous embrasse bien fort pour cette belle année. Je pense que ça sera une belle année.
Oui, ça va être une belle année. Et puis sachez que tout au long de cette année, on sera là entre 6h et 8h avec notre vétérinaire. 3216 pour joindre Laetitia ou bien animaux@rmc.fr. Vous le savez, hein, comme d'habitude, par mail aussi, vous pouvez nous poser vos questions. Et Laetitia, pour cette deuxième partie, bah justement, on va parler de l'une des bonnes résolutions que l'on peut prendre pour cette année 2015.
Et qu'on doit tenir, bien sûr.
Pourquoi ne pas consacrer un peu de son temps, justement, au bénévolat et donner un peu de temps pour les animaux?
Et oui, et il y a différentes façons de donner son temps à des animaux et être bénévole. Et une des façons, c'est de, si vous avez un chien, d'en faire un chien visiteur ou médiateur. Et nous allons voir, avec Marie Liénard, qui est présidente de l'association D'un cœur à l'autre, j'adore ce nom, qui forme des chiens médiateurs.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Bonne année, d'abord.
Bonne année, meilleurs vœux à tout le monde.
Alors, votre association forme donc des bénévoles et leurs chiens, qui deviennent des chiens médiateurs. On les connaît plus sur le terme de chien visiteur. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'un chien médiateur? Quel est son rôle?
Alors, j'aimerais peut-être commencer par vous expliquer un petit peu la différence entre chien visiteur et chien médiateur, parce que c'est peut-être un peu confus dans l'esprit de beaucoup de personnes. Le chien visiteur, c'est un terme qui a été déposé et qui est protégé par la Société Centrale Canine. Donc la Société Centrale Canine qui teste les chiens.
D'accord.
Oui.
Dans le rôle, hein, parce que on va pas s'arrêter sur les mots chien visiteur, chien médiateur. D'accord. Quel est le rôle de ce chien médiateur?
Alors le chien médiateur, tel que nous les formons dans notre association, intervient régulièrement ou plus ponctuellement dans tout un tas de structures. Ça peut être des structures qui accueillent des personnes âgées, comme des EHPAD, des services fermés, des unités Alzheimer. Ça peut être un public, des personnes handicapées avec des IME, des centres médicaux éducatifs. On peut aussi intervenir auprès d'un public, auprès d'enfants ou de jeunes personnes, donc avec dans le cadre du périscolaire, pourquoi pas, ou des IME plus spécifiques aux enfants, des hôpitaux, un hôpital de jour aussi, c'est envisageable. Et on peut intervenir aussi bien de manière individuelle ou en groupe. Un chien médiateur et son maître peut travailler avec un groupe de 5-6 personnes de manière individuelle.
Alors, en pratique, que fait ce chien? On arrive avec notre chien dans ces structures et le principe, c'est d'avoir des interactions avec les personnes, soit malades, soit handicapées, et d'avoir vraiment une interaction avec le chien.
D'accord. Alors, complètement, ce qui est important, c'est déjà, et c'est vraiment le point sur lequel on insiste au cours de nos formations, c'est d'imaginer son projet. Il faut vraiment absolument tenir compte du chien, de ce qu'il peut faire et ce qu'il va faire bien, c'est-à-dire qu'il y a des chiens qui sont pas à l'aise en groupe, donc le maître doit absolument adapter son intervention. Donc en fonction de ça, ce qu'il peut faire, il va aller, ne serait-ce qu'aller au contact de personnes qui sont isolées, qui n'arrivent plus à verbaliser. Ça peut faire des choses énormes et par sa présence, il peut stimuler tout un tas de fonctions cognitives, émotionnelles, et il se passe plein de très très belles choses.
Et justement, quel est l'atout d'un chien médiateur par rapport, par exemple, du personnel soignant ?
Eh bien, justement, je crois qu'avec un chien, on peut se lâcher.
Oui. On peut faire fonctionner sa mémoire aussi.
Ben complètement, ça a une très forte, un très fort pouvoir de réminiscence. Le chien, quelque part, réhumanise aussi la structure. Hein. Il n'y a pas de blues, il n'y a pas de positionnement figé. Et on assiste, on peut voir au quotidien des choses magnifiques qui se passent. Par exemple, des personnes qui sont aphasiques, qui, parce qu'il y a le chien, vont lui dire deux, trois mots. Il y a par exemple des personnes qui ont des gros problèmes de mobilité et quand ça se passe pas très bien avec les séances de kiné ou en ergo, et du coup on peut proposer d'aller promener le chien et ils sont capables de promener le chien et voilà. Et plein de gestes comme ça, on peut lancer la balle au chien alors que ce sont des gens qui n'arrivent pas à faire ces mouvements-là habituellement, quoi.
Alors, si je veux vous aider, si je veux être bénévole, quelle qualité doit avoir mon chien ? Est-ce que tous les chiens peuvent être chiens médiateurs ?
Alors, tous les chiens ne peuvent pas être chiens médiateurs, c'est évident. Il faut qu'il y ait quand même des critères assez spécifiques. Il faut que le chien soit déjà sociable, c'est-à-dire qu'il soit initiateur de contact. Les chiens qui sont apeurés par les inconnus,
oui, c'est quand même pas possible.
Compliqué.
Oui, c'est sûr. Mais plutôt des chiens qui vont vers l'humain, qui aiment bien ce contact-là.
Voilà, ça c'est déjà un premier point. Il faut que le chien ait un minimum d'éducation, c'est-à-dire que voilà, un chien qui va se mettre à sauter comme un kangourou quand il voit une personne inconnue, ça peut poser problème et en tout cas, c'est difficilement acceptable. Voilà, quand on lui dit assis, bah, il faut qu'il s'assoie, il faut pas qu'il soit trop fantaisiste.
Puis l'hygiène est importante aussi, surtout dans les structures médicales.
Bien sûr.
Oui, alors on parle aussi pendant nos formations du protocole d'hygiène qui n'est pas si compliqué que ça en somme, mais qu'il est important quand même de connaître et de respecter.
D'accord. Alors comment devenir bénévole ? Est-ce qu'il y a une formation avec vous ?
Alors nous proposons deux stages par an où on accueille 12 personnes, enfin 12 binômes, hein, maître et chien, et sur deux jours.
Oui.
Et on aborde toute une partie théorie et une partie pratique.
D'accord.
Et il y a des ateliers pratiques, des mises en situation, on teste les chiens sur beaucoup de points.
Oui.
Parce que on veut être sûr que il n'y ait pas de souci. Hein. On travaille vraiment sur l'axe sécurité des interventions et on souhaite aussi que le chien soit vif, ça bien, que ça soit pas une contrainte pour lui. Donc on est très vigilant à ça.
D'accord.
Voilà.
Très bien, très bien. Bah écoutez, si on veut être bénévole pour votre association d'un cœur à l'autre et puis faire des visites avec son chien qui devient chien médiateur, on peut vous contacter sur le site chienmediateur.com. Alors chien-médiateur au pluriel.
Ouais.
.com,
exactement.
Où il y aura toutes les informations. En tout cas, merci Marie.
Merci beaucoup Marie.
Merci. Je vous en prie.
Merci pour ces précisions.
Et meilleurs
vœux. Bonne année encore.
Au revoir.
Au revoir.
Laetitia, est-ce que avec Indy, vous avez essayé justement ? Est-ce que Indy pourrait être un chien médiateur ?
Et vous savez quoi ? J'ai fait une formation, elle a passé les tests et j'ai fait une visite en tant que chien médiateur. Et vous le verrez d'ailleurs. Vous le verrez au mois de février parce que ça a été filmé. Vous le verrez dans La Quotidienne sur France 5.
C'est pour ça que je vous posais la question, parce que je le savais.
Elle a été extra. Pour sa première visite auprès d'une personne âgée, elle a été extra Indy. J'étais vraiment très fière d'elle.
Voilà, parce que c'est un chihuahua, donc on peut se dire qu'un chihuahua n'est pas forcément... Enfin voilà, c'est un petit chien nerveux, etc.
Ah, pas du tout, elle était douce et tout.
Et malgré tout, on a l'impression que parfois le chien... Alors, c'est pas prendre conscience, mais... réagit positivement par rapport à ça. Hein.
Oui, c'est étonnant. Mais c'est bien, ça m'a fait voir aussi que à partir d'un certain nombre de minutes, le chien n'en peut plus. Il faut arrêter.
Oui, voilà.
Faut pas
parce que
c'est un effort. Il donne beaucoup et à un moment, il faut arrêter pour son bien-être aussi.
D'accord.
Et ça, c'est important.
Laetitia, on revient dans un instant. On parle de bénévolat ce matin, donner un peu de temps justement pour les animaux. On a d'autres exemples et des témoignages aussi à vous faire partager. 3216 animaux@rmc.fr, à tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos Animaux sur RMC. RMC, le week-end des experts. Vos Animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est le week-end des experts sur RMC. Et avant de retrouver la météo, les infos de 7h30, on poursuit. On est plein de bonnes résolutions pour cette année 2015, Laetitia. Alors moi j'ai.
Et oui, et on peut être bénévole.
Et voilà.
Et donner un peu de son temps.
Avec son animal de compagnie.
Avec son animal de compagnie, mais on peut aussi donner un peu de son nom pour la cause animale,
évidemment,
pour les animaux.
Bien sûr.
Et nous avons, je crois, Lucie qui veut témoigner dans ce sens.
Tout à fait, Lucie est avec nous au 3216. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Bonjour.
Et tout nouveau, c'est vrai, pour commencer.
Alors vous recueillez des animaux, c'est ça?
Oui, depuis 25 ans.
Ah oui. C'est-à-dire, ça se présente comment?
C'est-à-dire que j'étais infirmière dans un hôpital il y a 25 ans où on massacrait vraiment, entre guillemets, tous les chats qui venaient à l'hôpital parce que c'était insupportable, vous savez comment c'est. Les gens baladaient les chats dans l'hôpital et puis un jour le directeur les a fait exterminer. Et un jour, je suis rentrée dans mon bureau et j'ai trouvé dans une corbeille un tout petit chaton. Et une aide-soignante m'a dit, vous pouvez bien le prendre. Vous avez élevé vos enfants, vous n'avez plus personne. Bon, voilà.
Il est temps de s'occuper des animaux.
Voilà. C'est vrai que mon bureau donnait dans le parc et je donnais à manger à tous ces pauvres chats qui étaient abandonnés. Et donc, j'ai vu cette petite chatte que j'ai appelée Pepsi et qui a vécu 20 ans chez moi.
Ah oui, quand même.
Voilà. Et donc, j'avais plus d'enfants élevés, j'étais toute seule et tout, c'était pas un problème. Puis un chat dans un appartement, c'est pas un problème. Et puis, un autre jour, j'ai une collègue qui m'a dit, écoute, peux-tu me prendre ce petit chat-là? Donc, on l'a appelé Thomas O'Malley, il a vécu 22 ans. Et puis un autre, et puis figurez-vous qu'en appartement, je me suis retrouvée avec 20 chats.
Oh là là là.
Oh non.
Si. Et alors, je peux vous dire, ça sentait pas mauvais chez moi. Ça, d'ailleurs, personne s'en apercevait. Et ensuite, j'ai pu aller à la campagne. J'ai acheté une grande maison.
Ah oui,
et
vous me rassurez. Voilà.
Et là, je suis à la campagne depuis maintenant 10 ans. Et donc là, j'ai en tout depuis 25 ans, on a recueilli ou on nous a acheté dans le jardin parce qu'on habitait une maison avant où on nous avait acheté une fois un paquet avec 6 petits chatons dedans.
Et vous les gardez tous, vous les donnez pas?
Alors la collègue avait pris, j'ai attrapé les chatons, j'ai acheté du lait, tout ça et tout, j'ai emmené à la SPA. Seulement la SPA, je suis tombée, écoutez, permettez-moi l'expression, sur quelqu'un de neuneux qui m'a dit oui, je vais les garder, je vais les mettre ce soir. Mais j'ai dit monsieur, faut leur donner à manger toutes les heures. J'ai dit écoutez, c'est bien simple, j'ai repris mes chats, je suis repartie. Et puis on les a gardés, puis comme je travaillais, je me suis fait aider d'une voisine parce que c'était à boire, à manger toutes les heures et tout ça.
D'accord.
Et puis ensuite, il y a eu cette fameuse grosse chaleur 2003. C'est 2003, je crois.
Oui.
Hein, où les gens autour de nous, pourtant de gros cultivateurs avec les moyens, mais pour eux, les chats se débrouillaient tout seuls, laissaient les chats crever de misère dans cette chaleur. Donc on en a recueilli, tout ça. Et puis, on en a toujours recueilli parce qu'ils arrivaient, on nous les amenait et tout. Et là, dans le domaine où on a dit stop, là, franchement, on est caché, on ne sait pas qu'on est là. Mais on a dû se battre quand même parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les animaux. Et bien que nous soyons un domaine de quelques hectares, on a eu 4 chats qui ont été martyrisés.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Oh, et donc on a même un chat qu'on appelle Barnabé, un gros chat, il a tellement été battu qu'il pouvait plus marcher, qu'il pouvait pas faire ses besoins et tout. Enfin, on l'a rééduqué. Mm-hmm. Enfin, c'est quand même une servitude pour nous parce qu'il faut vérifier qu'il aille pas faire caca n'importe où.
Voilà. Et que vous apportent tous ces animaux? Vous en avez combien là?
Alors maintenant, on en a 18. On vient d'en perdre 2 là. Justement, je disais à votre précédente dame qui était au téléphone. On en a soigné dont 2 qui étaient très malades depuis 7-8 mois. Et ils sont morts, là, vraiment, ils sont morts de leur belle mort. Mais ils sont
D'accord.
morts pratiquement dans nos bras. Donc, c'est des soins de fin de vie, quoi, comme pour les humains.
Bien sûr. Et qu'est-ce que vous qui êtes infirmière, qu'est-ce que vous apportent les animaux, tous ces animaux chez vous?
Beaucoup de bonheur, du travail, parce que c'est un travail, hein. Vous savez, chez nous, ça sent pas mauvais, mais on est obligé de mettre des protections sur les fauteuils, sur les meubles, sur tout ça. Là, actuellement, je voudrais que vous puissiez être là avec une caméra, parce qu'on habite une grande maison de plein pied, avec, dans le séjour, 12 fenêtres. Et au bord de ces fenêtres, nous avons 7 chats qui sont sur le canapé en train de regarder les petits oiseaux à l'extérieur qui viennent mignon. Manger les graines qu'on leur a données.
Ouais, je pense qu'ils aimeraient manger les petits oiseaux, non?
Non, et ben même pas.
Même pas?
Ils bougent pas. On a notre chien, on a adopté un chien australien parce qu'on voulait aussi lui faire des misères. Alors lui, de temps en temps, il va aboyer à la fenêtre, mais maintenant les oiseaux s'en fichent. Et vous verriez, ils sont tous sur les buissons, donc ont été coupés parce que c'était des buissons qui avaient des fleurs. Et alors ils sont tous là, ces petits oiseaux, je sais pas leur nom. Donc j'ai dit que j'allais m'acheter un bouquin parce qu'ils sont... ils ont la tête noire et blanche, le ventre jaune, et ils sont tous à venir bouffer. Ah, oh, il y en a une grise.
Mais c'est des mésanges.
Je crois. Oui. Et ils sont tous à venir manger les petites graines, mais alors j'en mets tous les jours.
C'est des mésanges charbonneuses.
Voilà, mais écoutez, c'est extraordinaire. Alors mes chats sont là en train de dormir sur le dos du fauteuil. De temps en temps, ils ouvrent un œil, ça fait un peu de bruit, quoi. Voilà. Et puis, mais les oiseaux sont pas... voilà.
Très alors, bien. Mais, voilà, écoutez, merci, Lucie.
Merci, Lucie,
en tout cas,
pour
merci
votre
pour témoignage. Et on, oui. sent, en tout cas, vous transpirez l'amour que vous avez pour envers vos animaux.
18 animaux à la maison, ouf, oui, c'est du travail. Hein. Bon, après, c'est beaucoup de moteur aussi, mais c'est vrai que c'est du travail. Hein.
Laetitia, vous en avez deux, vous.
Oui, bah, c'est déjà du travail, mais c'est beaucoup de bonheur aussi.
Vous êtes montée jusqu'à combien? Parce que je sais qu'il y a quelques temps de cela, vous avez dit, vous faites pension des fois.
6, hein. Ouais, 6 dans la maison.
Ouais.
Dans des chiots.
Et alors, ça va 6 ou
c'était... Ah, mais les chiots, c'est du travail à 100%, hein.
Ouais.
Ah oui, c'est mais c'est du bonheur.
Pas plus de 6 quand même.
Non, je me suis montée jusqu'à 6, ouais.
Bon. On va revenir dans un instant, Laetitia, il est bientôt 7h30. Donc on va retrouver la météo et les infos. On accueillera Laure Breil, qui est présidente de l'association Les Chats Libres de Nîmes. De quoi s'agit-il, Laetitia, en quelques mots?
C'est une association qui s'occupe des chats libres, les chats des rues à Nîmes.
D'accord.
Voilà.
Elle va nous expliquer justement comment elle procède. Je vous rappelle que, bien sûr, vous pouvez poser vos questions, réagir hein, à ce sujet. 3216 ou bien animaux@rmc.fr, hein, c'est le mail qui vous permet de rentrer en contact avec notre vétérinaire. Et puis si vous nous joignez par mail, n'oubliez pas votre numéro de téléphone. On terminera aussi ce rendez-vous animaux avec notre petite vidéo Lolcat hein, tout à l'heure que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Météo info et on est de retour. À tout de suite.
Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr.
Laetitia Barlerin, est-ce que vous entendez cette petite musique?
Oui, c'est l'heure
de la question flash, vous le savez. Petite question mail, tiens Laetitia.
Oui.
C'est la question mail de Luigi.
animaux@rmc.fr.
Exactement. Et puis au passage, laissez-nous votre numéro de téléphone.
Oui, c'est mieux de vous entendre.
Mais voilà,
bah oui.
Luigi qui nous dit ceci. Mon chaton âgé de 7 mois est adorable, Laetitia, mais il veut toujours téter le lobe de mon oreille. Et ça fait mal maintenant. Que faire? Je n'ose pas le repousser. Oh, j'imagine ce Luigi en train de souffrir pendant que le chat lui tète le lobe de l'oreille. Quelle horreur.
Bon. Vous savez, c'est la persistance d'un comportement de bébé, là, le fait de téter. Là. Alors, il y a des chatons qui têtent l'oreille, qui peuvent téter la peau, qui têtent aussi des objets portant votre odeur, qui têtent souvent aussi le creux du bras. Oui. Ou alors les aisselles, et vous savez pourquoi? Parce que c'est là où on sécrète nos phéromones. Ah. Donc je pense qu'ils sont attirés par ça. Et ce sont souvent des chatons qui ont été séparés trop tôt de leur mère. Du coup, à 7 mois, votre chaton, c'est toujours un bébé dans sa tête.
Ah,
alors qu'à 7 mois, c'est un jeune homme normalement.
Ah, oui, bien sûr.
Hein? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire attention parce que ça peut être un hyper-attachement, ce qu'on appelle un hyper-attachement, c'est-à-dire il peut ne plus vivre sans vous. Mm-hmm. Donc il faut l'aider à prendre son indépendance. Comme un jeune homme. D'abord, vous l'acceptez sur le lit, mais vous l'acceptez pas contre vous, hein, parce que souvent ils sont contre vous toute la nuit. Vous privilégiez les jeux plutôt que les câlins ou trop de câlins. Et puis, dès qu'il tète votre lobe, vous lui lancez un jouet pour vraiment le distraire et pour qu'il aille autre part.
Alors, vous découpez votre lobe et vous le jetez.
C'est nous avec un casque là on n'aurait pas.
Ah
voilà,
oui.
Vous mettez le casque.
Ah ben voilà.
Ah bah voilà.
Voilà, vous avez acheté un casque audio.
Ben voilà, vous mettez le casque et hop.
Et pendant ce temps-là, vous écoutez RMC. Hein, c'est pas mal ça, Laetitia.
C'est bien, on a trouvé la bonne solution.
Voilà, je pense qu'on a la bonne solution. 32-16 hein, pour toutes vos questions animaux, on vous attend.
RMC, c'est au 32-16. 34 centimes la minute plus coût éventuel selon opérateur. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC, le week-end des experts. Vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Un bon dimanche avec nous sur RMC, votre dimanche sur RMC, bien jusqu'à 8h, vous le savez. Eh bien, c'est Laetitia Barlerin, notre vétérinaire, qui est là. Et puis, juste après, nous reviendrons avec Jean-Luc Moreau, 2 heures dédiées, vous le savez, à l'automobile. Et avec Jean-Luc, on reviendra sur ce qui va changer en 2015 dans le monde de l'automobile. Pour l'automobiliste, plus particulièrement. Et vous verrez qu'entre les bonus-malus, les taxes, et tout ça.
Et les radars.
C'est pas joli, joli. Mais on fera le point avec Jean-Luc tout à l'heure entre 9h et 10h. Et puis, bien sûr, toutes vos questions auto au 32-16. D'ici là, on poursuit notre rendez-vous animaux avec Laetitia. Et on évoque le bénévolat, donnant un peu de temps pour les animaux, Laetitia.
Et on peut, par exemple, aider les chats des rues. Et c'est ce que fait Laure Bray, qui est présidente de l'association Les Chats Libres de Nîmes. Une association, d'ailleurs, qui vient d'éditer un livre qui s'appelle Le Peuple de l'Ombre aux éditions du Puy du Roule.
Bonjour Laure.
Bonjour Laure, bonjour. Bienvenue. Et bonne
bonjour.
Année.
Et bonne année.
Alors dites-nous en deux mots ce que fait votre association et ce que font vos bénévoles.
Mais notre association, on est donc plusieurs bénévoles. On essaye de nourrir les animaux, déjà les chats de rue, les recenser. On les nourrit, on les surveille, on les soigne bien sûr. Et principalement, on les stérilise, c'est-à-dire qu'il faut les piéger. On les stérilise pour les remettre sur leur lieu de vie. Et tous les animaux que l'on peut mettre à l'adoption parce qu'ils sont suffisamment sociables, on le fait.
D'accord. Et alors, combien de chats suivez-vous comme ça?
Oh là là, mais cette année, écoutez, on aura stérilisé à peu près 1200 chats, c'est énorme,
oui.
Mais on s'occupe de Nîmes et on s'occupe également de l'agglo, des villages qui sont tout autour. Bon, on est très nombreux pour faire ce travail-là.
Alors, être bénévole dans une association comme la vôtre signifie quoi en pratique?
Oh bah écoutez, il suffit de passer un coup de fil, de dire voilà, ben je voudrais bien aider, puis voilà, c'est parti.
Mais ça veut dire combien de temps aussi? Est-ce qu'il faut beaucoup de temps? Est-ce que
Chacun met vraiment le temps qui dispose, voilà, le temps que lui-même voudra consacrer. Donc il y a des personnes qui consacrent beaucoup de temps pour faire tourner l'association, et d'autres personnes qui en donnent un petit peu moins. Mais peu importe, parce que si une personne donne beaucoup de temps, elle va aller au bout d'une activité de l'association, mais s'il y en a 10 autres qui se réunissent pour la réaliser, c'est pareil. En fait, on part du principe que c'est l'union qui fait la force. Voilà, chacun va donner du temps comme il peut et comme il le désire.
Alors, vous savez qu'on a l'idée reçue, je sais, que les associations qui s'occupent des chats des rues, ce sont des retraités quoi, qui s'en occupent. Est-ce que vous travaillez vous?
Ah ben oui, moi-même je travaille, et puis on va dire qu'à 95% des personnes, on est à peu près 80, on travaille tous quoi. On est plutôt une moyenne d'âge jeune. En fait, souvent je dis que nous on travaille pour gagner les croquettes de nos chats, hein. On n'a pas le choix.
Comment vit votre association? Parce qu'il faut financer ces 1500 stérilisations.
Ah oui, oui. Ah ben là, on a tout un système. On a commencé au tout début, quand j'ai repris l'association, en fait, il n'existait plus grand-chose. Donc, avec mon mari, on a commencé par faire les vides greniers, donc de Nîmes et des villages. Et c'était un moyen qu'on avait de faire redémarrer, si vous voulez, l'association, la faire connaître. Et ça a très bien marché. Donc, après, on a fait des vides greniers de plus en plus gros. On a réussi à faire des vides greniers uniquement chats libres. Ensuite, on a eu l'idée de faire un calendrier. Donc, pour ça, on a créé un concours, et chaque année maintenant on a un calendrier qui réunit les meilleures photos.
Cette année, les photos d'animaux, hein, pas les photos des bénévoles en petite tenue,
non, non.
Hein, quand même.
Laetitia.
Oh, c'est à la mode.
Oui. Non, ce sont nos chats, et cette année c'était la plupart des chats, c'était des chats qui avaient été adoptés. Chaque année on prend un thème et on essaye de faire un calendrier qui soit plutôt gay, vous voyez, faire quelque chose de... Après on a réussi à faire une expo vente. La première année ça s'est fait tout simplement, et puis des artistes qui soit soutiennent la cause, soit avaient vraiment envie de faire quelque chose, ont offert leur tableau leur œuvre entièrement au bénéfice de l'association. Et puis chacun de nous, une fois de plus, les bénévoles se mettent au travail, c'est-à-dire qu'il y en a, certains font des confitures naturelles, d'autres...
Des gâteaux.
D'autres poussent, vous voyez, on a des bricoleurs, mais on peut arriver comme ça vraiment à gagner pas mal d'argent. Après, bien sûr, on a des donateurs, voilà, sans ça, et puis des adhérents, voilà.
Alors, ça vous prend combien de temps tout ça?
Vous, mais vous êtes présidente, alors peut-être que vous prenez plus de temps que les autres.
Vous êtes à temps plein, là. Vous êtes à temps plein.
Presque. Mais bon, moi je fais comme ça. Moi je m'organise. Et puis, mais vous savez, on est très nombreux à donner beaucoup de notre temps. En fait, au départ, on a dans l'idée d'aider ces animaux qui n'ont rien demandé, qui se sont retrouvés comme ça à la rue, parce qu'on peut pas supporter ce. Parce que quand on s'aperçoit de la misère qui existe dans les rues pour les chats, ça devient vite insupportable. Donc forcément, on veut agir et forcément, on donne de plus en plus de temps. Mais c'est parce qu'on le veut bien. Et donc, quand on a réussi à sauver, si ça peut paraître ridicule, si vous voulez, pour une personne extérieure, mais quand on a réussi à sauver un chat, ben pour nous, on a réussi à sauver une vie. Voilà.
Oui, parce que vous dites dans votre livre, nous montrons que l'on peut avoir un peu d'humanité dans ces temps maussades. Et c'est vrai que certains vont vous dire, mais bon, ils ne vont pas comprendre vos actions pour des chats des rues.
Bien sûr.
Et qu'est-ce que vous leur répondez à cela ?
Ben écoutez, dernièrement, là, Mathieu Ricard a édité un livre, c'est Plaidoyer pour les animaux.
Oui.
Et je trouvais qu'il y avait une phrase qui résumait bien ce que nous pensons pour les chats libres. Il dit, et si le temps était venu de les considérer non comme des êtres inférieurs, mais comme nos concitoyens sur Terre. Et ça, vraiment, c'est exactement notre pensée. Du moins sur Nîmes et l'agglo. On ne voit pas pourquoi on va laisser souffrir un animal. Il vit comme nous, il a le droit à avoir une vie décente.
Bien sûr.
Et nous, ça ne nous empêche pas du tout pour autant d'aller aider des êtres humains. Parce que quand quelqu'un nous appelle à l'aide, il nous appelle à l'aide pour les chats et quelquefois on s'aperçoit que derrière, eh bien,
oui,
eux-mêmes sont en détresse.
Voilà. Voilà, il y a souvent de la souffrance sociale derrière.
Voilà, merci beaucoup. Exactement. Merci Laure.
Merci Laure. Alors si vous voulez être bénévole dans l'association ou les aider, vous avez un site qui s'appelle chatlibre.com, tout attaché au pluriel. Et puis vous avez aussi un livre qui vient de sortir qui s'appelle Le Peuple de l'Ombre aux éditions du Puy du Roule. Merci Laure. C'est très intéressant. Alors maintenant,
nous étions à Nîmes, d'ailleurs.
On était à Nîmes.
On l'a senti un tout petit peu dans cette petite pointe d'accent.
Alors bénévole, ça peut être aussi être bénévole dans un refuge.
Oui.
Et je crois qu'on a le témoignage de Barbara.
Oui, qui est bénévole dans une SPA.
Voilà.
Et qui va nous raconter tout ça. Bonjour Barbara.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC et bonne année.
Bonne année d'abord.
Merci à vous aussi.
Alors Barbara, vous êtes bénévole à la SPA du Génois, c'est dans le Loiret, c'est ça ?
Tout à fait, oui. Nous sommes sur la commune de Gien.
Oui. Et alors, c'est quoi votre bénévolat ? Combien de temps ? Qu'est-ce que vous faites ?
Alors, actuellement, je suis bénévole environ 3 fois par semaine.
Oui.
Soit en matinée, où en principe, on s'occupe à nettoyer les boxes des chiens ou les chatteries où sont les chats.
Oui.
Et puis, en après-midi, on s'occupe plus de balader les chiens, de passer du temps avec les chats pour les sociabiliser correctement.
Oui, j'ai fait ça.
Oui.
J'ai fait ça pendant toute une journée dans un refuge. J'ai fait ça pour La Quotidienne, pour France 5. Mm-hmm. Je peux vous dire que c'est du boulot, hein. C'est physique.
C'est très physique. Par contre, je pense qu'une fois qu'on est dedans, on va dire qu'on oublie quand même toute la fatigue.
Oui, bien sûr.
Moi, mon problème, moi, c'était de pas. Il fallait pas que je m'arrête parce qu'il fallait que je fasse, voilà, les cages, etc. Mais j'avais tellement envie de caresser tous ces animaux qui demandaient de l'affection que ça prend un temps fou, en fin de compte, à faire des caresses et à jouer avec tout le monde.
Bien pour ça que les bénévoles sont si importants, parce qu'on a des agents animaliers et des salariés sur place. Mais le refuge compte environ 70 chiens et une trentaine de chats.
Oui.
Donc en fait, c'est vrai que bon, il faut assurer le basique, c'est-à-dire l'hygiène de vie, etc. Mais tout ce qui est partager du temps, partager de l'amour, c'est aussi très très important pour ces chiens.
Voilà. Les promener, tout simplement aussi les chiens.
Tout à fait. Oui, ils sont tellement contents, ils le savent en plus.
Donc, ouais. Et en plus, je crois que pendant les balades, on peut aussi les éduquer, leur apprendre quelques ordres. Voilà.
Tout à fait. Oui. Alors après, ça dépend des expériences de chacun, mais c'est vrai que et puis on au fil du temps, on apprend aussi à connaître les animaux. Donc c'est vrai qu'on connaît les petits caractères de chacun. On peut travailler éventuellement sur des chiens qui au départ sont peut-être pas très sociables ou craintifs.
Oui.
Et donc c'est vrai qu'en s'y mettant en équipe et en travaillant là-dessus, on peut quand même arriver à de très très bons résultats.
Alors vous êtes bénévole dans le refuge, mais pas seulement. C'est-à-dire que vous faites aussi des portes ouvertes, des actions dans les supermarchés. C'est tout ça aussi, ça fait partie de l'activité de bénévole.
Bien
c'est
sûr.
Pas seulement aller nettoyer les cages, c'est aussi
promouvoir ce bénévolat.
Oui. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a une partie, tout ce qui est aussi administratif, préparer des flyers, préparer des... nous, on a un trombinoscope qui passe dans toutes nos manifestations à l'extérieur. Donc, en fait, chacun peut donner quelque chose qui l'intéresse.
Celui qui est bricoleur, il répare les cages. Celui
tout
qui
à
est,
fait.
Voilà.
On a des gens qui viennent tondre, qui viennent débroussailler, qui viennent bricoler. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir envie de nettoyer les box ou de caresser les chats. On peut faire plein de choses au refuge.
Et puis ça vous permet aussi de rencontrer d'autres personnes, Barbara. J'imagine que vous pouvez lier des amitiés. Hein.
Et ça a été mon cas parce que je suis revenue de l'étranger, j'habitais à l'étranger et je ne connaissais absolument personne.
Bah, c'est moyen de connaître des gens, c'est sûr.
C'est vrai que c'est aussi, et puis bon, à la base, on partage quand même quelque chose de commun,
oui,
c'est notre amour pour les animaux.
Oui.
Donc c'est vrai qu'il y a aussi de très belles histoires parallèles qui se lient. Donc, oui.
Ah bon,
peut-être même des histoires amoureuses, Barbara.
On peut trouver l'amour dans les refuges.
Peut-être aussi, c'est pas mon cas, mais pourquoi pas.
Ah.
Et qu'est-ce que vous apporte cette activité?
Pour moi, c'est vraiment un équilibre psychologique, on va dire. J'ai toujours adoré les animaux depuis toute petite, j'ai jamais vécu sans.
Oui.
Et j'avais déjà à la base 3 chiens, j'en ai adopté un 4e qui vient de ce refuge.
Oui.
Et c'est là vraiment où j'ai ouvert les yeux. Et c'est vraiment quelque chose qui, on pense nous leur donner du temps et de l'amour, mais ils nous renvoient tellement en plus.
C'est vrai.
On sort tellement comblé, on se sent, bon, c'est un petit peu narcissique, mais c'est vrai qu'on se sent utile quand même. On revient à la maison et on se dit chouette.
Bah, c'est peut-être le sens de la vie aussi, se sentir utile.
Bien sûr.
Donc c'est très bien.
Ouais.
C'est très bien, Barbara. Merci beaucoup.
Ouais.
Merci, Barbara, pour ce témoignage.
Est-ce que je pourrais juste donner le nom du site de
l'application? Mais bien sûr,
Barbara.
D'accord. Donc c'est la SPA du Génois, www.spadugénois.org. Voilà.
Et on retrouvera cette adresse sur la page Facebook de vos animaux.
Merci
sur
beaucoup.
RLC.
Merci, Barbara. Merci
beaucoup. Bravo pour ce que vous faites, Barbara.
Merci.
Et vous étiez où à l'étranger avant?
J'étais aux États-Unis.
Ah oui.
Oui.
D'accord.
Oui, oui.
Ok. Ah oui, ça vous change quand même les États-Unis après passer
et le Loiret.
Et le Loiret, c'est pas tout à fait la même chose.
Non.
Mais c'est bien aussi.
Tout
à bientôt.
Fait.
Au revoir.
Merci. Merci. Au revoir.
Alors on revient dans un instant. Laetitia, on a un autre exemple justement, de bénévolat. Pourquoi ne pas devenir enquêteur animalier?
Eh oui, faire une enquête, être le Columbo des animaux.
Le Columbo des animaux, Laetitia.
Oui.
Parce qu'en général, c'est le Columbo de poulet. Et ça, c'est autre chose.
Oh
non.
Alors
oh,
celle-là.
François, non. Vous connaissez pas le Columbo de poulet? C'est très bon. Non, c'est vrai.
Je n'avais pas pensé à celle-là, c'est vrai.
Ah ouais, mais là, vous m'avez un peu tendu la perche, si je puis me permettre, Laetitia. Bon, on plaisante, hein, bien sûr. On revient dans un instant, Stéphane Lamarre sera avec nous. Je vous rappelle que c'est le week-end des experts, c'est les animaux. On est là jusqu'à 8h avec Laetitia Barlerin, tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Bienvenue si vous voulez nous rejoindre sur RMC, encore une fois, tous nos vœux de bonheur pour cette année 2015. En ce 4 janvier, eh bien, vous êtes au cœur de ce rendez-vous animaux. Et puis, je vous rappelle que juste après la météo, les infos de 8h, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Qu'est-ce qui va changer pour les automobilistes en 2015? Eh bien, pas mal de choses et c'est pas forcément très positif, les amis. On fera le point avec Jean-Luc qui nous listera tout ce qui va changer. Ça sera entre 9 et 10. Et puis, bien sûr, Jean-Luc répondra à toutes vos questions auto au 32-16 dès 8h. Laetitia, on poursuit. Dans notre thème de ce dimanche, on évoque le bénévolat avec les animaux et on va maintenant devenir enquêteur animalier, c'est ça?
Oui, si vous êtes bénévole pour l'association Stéphane Lamarre et nous avons Stéphane Lamarre justement au téléphone. Bonjour, bienvenue.
Laetitia, bonjour François.
Bonjour.
Alors, vous êtes président fondateur de cette association qui porte votre nom. C'est une association de défense des animaux qui a été créée il y a bientôt 15 ans, je crois au mois de mars, vous avez fêté vos 15 ans. Votre spécialité, des enquêtes pour des faits de mauvais traitements pour les animaux et des sauvetages d'animaux. Alors, justement, vous proposez à des personnes qui sont intéressées de devenir enquêteur animalier. Alors, qu'est-ce qu'un enquêteur animalier?
Alors tout simplement, un enquêteur animaliste, c'est une personne qui va aller enquêter pour des faits de mauvais traitements qui nous sont signalés au service juridique de l'association Stéphane Lamarre. Et puis également, une deuxième mission, c'est d'aller vérifier les animaux que nous faisons adopter, le post-adoption.
Ah, c'est-à-dire que vous vérifiez que la famille adoptante s'entend bien avec l'animal et tout se passe bien, c'est ça ?
Tout à fait. Donc, en fait, il y a deux types de missions. Vous avez les missions de terrain, les enquêteurs de terrain, qui consistent à intervenir pour des faits de mauvais traitement sur des animaux, chiens, chats, animaux de ferme, donc qui nous sont signalés. Les enquêteurs sont nos yeux, nos oreilles. Ils vont vérifier les conditions de vie des animaux, voir si des faits de mauvais traitement sont avérés ou pas.
Et pour devenir un enquêteur, qu'est-ce qu'il faut avoir comme atout? Quelles qualités faut-il avoir?
Les qualités que nous on demande pour être enquêteur, ça va être d'être patient, d'avoir un peu de sang-froid, avoir aussi et aimer le relationnel, puisque c'est une discussion lorsqu'on a affaire à une personne qui maltraite son animal, oui, volontairement ou involontairement. Ça,
oui, il ne faut pas lui rentrer dans le flanc quand même tout de suite.
Voilà. Oui, il faut être aussi assez courageux parce que ça peut dégénérer. Ce genre de relation, non?
Effectivement, oui, bien sûr. Il faut, si vous voulez, les gens doivent garder le sang-froid, parce qu'il ne faut pas perdre l'objectif qui est l'animal. Il ne faut pas qu'on perde l'animal. C'est extrêmement important. Lorsque vous avez un animal qui est maltraité devant vous, parfois il suffit de donner des conseils d'ordre juridique parfois, ou des fois ça va être des idées en lui disant mettez plutôt la niche différemment, parce que là il y a le froid, parce que ceci, parce qu'il y a le soleil, vous voyez ce que je veux dire, c'est des conseils qui font qu'on améliore les conditions de vie des animaux au quotidien.
D'accord.
Donc si on se braque d'emblée, la personne qui, elle, est accusée de mauvais traitement se braque parce qu'elle n'accepte pas parfois la vérité, et parfois c'est pas fondé, donc d'autant plus, quoi. Mais des petits conseils, ça aide l'animal au quotidien, voilà, d'amener des résultats, et c'est d'emmener une réflexion, une discussion entre l'infracteur, le mis en cause, si vous préférez, et l'enquêteur qui représente l'animal, qui est là pour représenter la voix de l'animal, parce que l'animal ne peut pas se défendre, et donc c'est bien un être humain qui doit faire cette démarche. Donc on appelle ça un enquêteur.
Alors des fois aussi, on vous signale un mauvais traitement sur un animal, un mauvais traitement qui n'en est pas un, parce que voilà, et cet enquêteur aussi fait pèse le pour et le contre, savoir si vraiment il y a une maltraitance ou pas.
Effectivement, parfois vous avez des gens, vous avez des querelles de voisinage et des personnes qui n'aiment pas leur voisin parce qu'il a la plus belle voiture ou il ne travaille pas ou ceci ou cela, et du coup ils vont s'en prendre à l'animal. Et nous, on doit être lucide, on doit voir si effectivement l'animal est maltraité ou pas, et si ce n'est pas le cas, l'enquête est classée sans suite, il n'y aura pas de poursuite judiciaire, il n'y aura pas de retrait de l'animal non plus, et ça s'arrêtera là pour nous.
Donc le fait de passer par un enquêteur permet après l'ouverture ou pas d'une plainte, c'est ça?
C'est ça, puisque si vous voulez, juridiquement, un animal qui est maltraité, seule une association de protection animale est habilitée à déposer plainte. Si il n'a pas de propriétaire. S'il a un propriétaire, c'est le propriétaire qui dépose plainte, et l'association peut se constituer partie civile à l'audience pour défendre les intérêts des animaux en général. Donc l'enquêteur est là pour faire le lien entre l'infracteur, l'association, et l'association fait le lien avec l'administration judiciaire ou administrative.
Bah, la responsabilité est grande quand même. Est-ce qu'on a des formations d'enquêteurs?
Alors, nos enquêteurs sont formés. Soudé, ils reçoivent un livret avec les articles de loi, avec un mode d'emploi en fonction des cas qu'ils rencontrent. Et ils sont toujours après en relation avec notre service juridique. C'est-à-dire que s'ils ont une difficulté quelconque, il y a un problème qu'ils n'arrivent pas à régler, ou une enquête un peu spéciale qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer, ils sont encadrés par notre service juridique. Et ce sont donc des juristes. Et derrière, nous avons un avocat, pour pas le citer, notre avocat, maître Patrice Grillon, un avocat connu dans le domaine animalier maintenant. Et ils sont tous les deux dans le service juridique, et il y a toutes les demandes d'enquête. Ils encadrent les enquêteurs, et puis après, les parquets, les commissaires de police et gendarmerie.
Alors, vous proposez aussi d'être bénévole, mais pour autre chose. C'est-à-dire, vous n'avez pas de refuge, mais on peut être aussi bénévole comme famille d'accueil. Alors, c'est quoi famille d'accueil?
Alors effectivement, à l'association, on ne dispose pas encore de refuge. Mais toutefois, si on avait un refuge, l'un n'empêcherait pas l'autre, puisque les familles d'accueil, c'est extrêmement important, surtout pour un animal qui a été maltraité. Un animal maltraité a besoin de reprendre confiance en l'homme, et c'est pas derrière une cage que cela va revenir facilement. Vous voyez, l'animal va rester craintif, va se mettre au fond de sa cage, il bougera pas, et c'est dommage. Donc autant que l'animal revienne dans un système normal, dans un système familial, et cette famille va redonner de l'amour au chien, va lui redonner confiance, et ça nous permettra de faire adopter cet animal dans de meilleures conditions.
Ça veut dire que pendant quelques mois, on garde un animal qui va être adopté après, qui est à l'adoption.
Tout à fait. Ça permet, sous l'association, de mieux connaître les besoins de l'animal, de savoir s'il est affectueux, s'il est sociable, s'il est propre, s'il aime les chiens, s'il aime les chats, s'il aime les enfants. Tous ces paramètres sont importants pour mieux placer l'animal. Parce qu'un animal qu'on place, on n'a pas le droit à l'échec. C'est un animal qui a subi un abandon, qui a eu de la maltraitance. Parfois, certains ont été abandonnés tout simplement. Et on n'a pas le droit à l'échec. Parce que un échec pour un animal, ça peut être aussi fatal dans son comportement.
Oui, parce qu'on peut imaginer que le traumatisme soit parfois très important, donc d'où l'importance de cette famille d'accueil pour essayer de juger ce traumatisme, essayer de le réparer si c'est possible.
Exactement. Vous avez des chiens qui n'aiment pas les enfants puisqu'ils ont eu des enfants qui ont tiré la queue, l'oreille.
Et
du coup, ça peut dégénérer par une morsure. Et on ne le sait pas lorsqu'on adopte un animal. Donc le fait qu'ils vivent déjà en famille d'accueil, dans un cadre familial, la famille d'accueil pourra dire attention, j'ai remarqué que le chien a peur des enfants. Donc de préférence, ne pas le mettre dans une famille d'adoption avec des enfants. Voilà, tous ces paramètres sont extrêmement importants.
Le côté négatif de la famille d'accueil, parce que je vécu, parce que j'ai été famille d'accueil, c'est qu'on s'attache tellement à l'animal qu'à la fin, on l'adopte, quoi. Enfin, c'est pas le côté négatif, mais bon, c'est un peu...
C'est une belle histoire d'amour.
J'imagine que ça doit vous arriver, Stéphane, ce genre d'histoire.
Alors, heureusement que ça existe, effectivement, on a des familles d'accueil qui adoptent l'animal parce que, comme disait Laetitia, ils s'y attachent. Et le problème pour l'association, c'est qu'on perd une famille d'accueil puisque on a un chien ou deux ou trois, un quatrième, c'est difficile, à moins d'avoir une belle villa.
Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces précisions.
Alors, si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette association et devenir bénévole, enquêteur, famille d'accueil, etc., vous pouvez aller sur le site Association Stéphane Lamarre. Tout attaché, Lamarre, c'est lamart.com. Voilà,
merci beaucoup Stéphane, et encore bravo pour tout ce que vous faites. Laetitia, on termine avec notre vidéo LOLCAT. Alors là, on change carrément d'univers, et imaginez un Golden Retriever qui doit malgré tout arriver à réussir un exercice.
Voilà. Qui est filmé, il y a un jury, voilà.
Donc il doit traverser en fait une espèce de tapis qui est jonché de pièges pour lui.
Voilà, alors c'est des friandises qui sont cachées un peu partout, mais le principe de l'exercice, c'est qu'il doit écouter son maître qui lui dit « viens vers moi » et ne regarde pas les saucisses, les machins à droite, à gauche.
Parce que les petits jouets aussi.
Les jouets, machin.
Voilà, donc en fait il a plein de tentations, il doit faire fi de ses cette tentation et arriver de l'autre côté de l'obstacle.
Le plus rapidement possible. Ouais. Alors, on voit les chiens qui le font très bien avant.
Oui, très bien.
Et puis après, lui, il arrive et il a rien compris, quoi.
Et en fait, je crois qu'il fait exactement tout ce qu'il ne devrait pas faire. C'est-à-dire qu'il vide toutes les gamelles, il joue avec tous les jouets et on voit sa maîtresse, la pauvre, elle est là et elle se rend compte qu'il n'y a plus rien à faire, quoi.
Bah oui,
elle
là,
le
c'est fini.
Tire comme ça, mais lui s'en fout complètement. Enfin, c'est très, très drôle.
Et le jury est mort de rire que là, c'est vraiment.
On se rend compte que,
Le candidat, il
est très cool, il a l'air très bien. Vidéo très drôle, à retrouver donc dès maintenant sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Laetitia, rendez-vous dimanche prochain.
Oui, je vous embrasse tous, encore mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. On vous souhaitera encore la semaine prochaine. Et puis passez une très bonne journée, et peut-être pour ceux qui reprennent demain, une bonne reprise.
Voilà, et dans un instant, ça sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoint après la météo et les infos de 8h. À tout de suite.
Retrouvez vos animaux au podcast sur rmc.fr.